Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur Radio Dragon 96.8 et 104.4 et Campus Grenoble 90.8.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter le roman Les oiseaux du temps d'Amal El-Motar et de Max Gladstone, originellement paru en 2019 sous le titre This is how you lose the time war et en 2021 dans la traduction française de Julien Bétan. Alors les deux co-auteuristes du roman dont on vous parlera aujourd'hui sont tous les deux nés en 1984. On se demande presque si c'était pas une année qui prédestine particulièrement à écrire de la littérature de l'imaginaire. Amal El-Motar est née et a grandi à Ottawa au Canada. Sa famille est originaire du Liban où elle a aussi vécu pendant 2 ans au cours de son enfance. Elle a fait des études de lettres et a écrit sa thèse de doctorat sur les représentations de fées et d'autres créatures fantastiques dans la littérature britannique de l'époque romantique, en s'intéressant particulièrement à comment ces représentations se croisent avec la construction d'une identité nationale. Aujourd'hui, elle enseigne l'écriture créative à l'Université d'Ottawa. Elle écrit des poèmes et des nouvelles de SFF, science-fiction et fantasy, qui sont publiés dans divers magazines et recueils et dont plusieurs ont reçu des prix renommés. Elle écrit aussi des essais et des chroniques, notamment pour Tor.com et la New York Times Book Review. Max Gladstone est né dans le Massachusetts aux États-Unis. Il a étudié le chinois à l'université de Yale et s'est installé ensuite pendant 2 ans dans l'Anhui, une région rurale en Chine où il a enseigné et travaillé comme traducteur. Après bon nombre de nouvelles, cet amateur d'arts martiaux et violoniste passionné est actuellement à son 7e roman de la série de fantasy urbaine The Craft Sequence et dans le même univers, il a également créé 2 jeux vidéo. En 2015, il a lancé la série Fantasy Bookburners, des livres audio en podcast écrits par toute une équipe d'autoristes, dont Amal El-Motar. Pour tous les deux, Les Oiseaux du Temps est leur première œuvre traduite en français.
Les Oiseaux du Temps est un roman de science-fiction épistolaire qui alterne les points de vue et les lettres que s'échangent 2 guerrières d'élite, rouge et bleue. Les deux sont des agentes secrètes qui agissent dans la guerre du temps. Elles appartiennent à des organisations ennemies engagées dans une lutte de pouvoir mystérieuse. Bleue travaille pour Jardin, un univers botanique et biotechnologique. Rouge travaille pour l'agence, dirigée par la commandante, un système technologique et mathématique. Rouge et bleu se déplacent dans les brins de l'histoire pour en modifier le cours, manipuler la tresse du temps et, par un effet domino, augmenter le pouvoir de leur organisation respective. Le roman commence avec Rouge, qui pense avoir réussi sa mission meurtrière, jusqu'à tomber sur une lettre de bleu qui lui fait comprendre qu'elle l'a devancée. C'est la naissance d'une correspondance, un mélange de défis et de liens qui se fabriquent dans le contexte brutal de la guerre du temps. Une relation romantique qui grandit dans le plus grand secret, car leur premier échange les menace déjà d'être considérés comme des traîtres ou des agents doubles. Elle s'applique, avec beaucoup d'inventivité, à écrire et fabriquer des lettres indécelables, insaisissables, qui disparaissent au rythme de leur lecture. L'univers du roman Les Oiseaux du Temps est très énigmatique. Et au début, je peux dire que je n'y comprenais rien. Mais les chapitres très courts et la teneur des courriers échangés m'ont permis d'être emporté par l'histoire et de prendre finalement un certain plaisir à comprendre progressivement ce monde, son étrangeté, sa complexité. Et c'est intéressant que tout ne soit pas donné dès la première page et de se laisser voyager dans cette relation en construction sans pour autant saisir toute la réalité dans laquelle elle se construit. On sait qu'il y a une guerre, mais on ne comprend pas tout de suite ses tenants et aboutissants. On comprend assez vite qu'il s'agit de la guerre du temps, et cette question du temps qui passe est traitée d'une manière à nous déboussoler. Par exemple, le premier chapitre, qui dure quelques pages, se déroule sur une durée inestimable. Dans les premières lignes du roman, le sang nappe les cheveux de Rouge, qui sort tout juste d'une bataille où les deux armées se sont entretuées, ne laissant aucun survivant. Mais quelques pages plus loin, le temps s'est étrangement écoulé et les vignes ont envahi le champ de bataille.
Puis elle part, ayant à la fois réussi et raté sa mission. Elle grimpe en aval en direction de chez elle, du futur tressé que son agence modèle et protège. Aucune trace d'elle ne subsiste, hormis les cendres, les ruines et les millions de morts. La planète attend sa fin. Les vignes sont vivantes, certes, comme les criquets. Mais il n'y a plus personne pour les contempler, à part des crânes. Des nuages noirs menacent, des éclairs se ramifient, et le champ de bataille devient monochrome. Le tonnerre gronde. La pluie va tomber ce soir, recouvrir le sol vitrifié, si la planète survit assez longtemps.
Dans cette histoire, les combattantes se déplacent dans le temps comme elles pourraient se déplacer dans l'espace. Ce qui représente le temps, c'est une tresse, composée des différents brins de l'histoire, et chaque variation fabrique un nouveau brin, avec son propre numéro, érigeant ainsi de nombreux mondes parallèles, de nombreuses versions de l'histoire. Et comme on vient de l'entendre, dans cette description des brins, on a franchement l'impression que les auteurices prennent un malin plaisir à nous désorienter. Rouge et bleu redescendent le temps en grimpant en aval des brins. La manière de parler du temps est tortueuse, mélangeant l'avant et l'après dans un sens et dans l'autre. De la même manière, on ne comprend pas très bien qui sont ces deux organisations ennemies, l'agence et Jardin. On ne sait pas trop ce qui les oppose, sinon une guerre de pouvoir et de territoire. Dans la guerre du temps, les combattantes modifient le cours de l'histoire pour l'orienter en faveur de leur organisation, pour leur permettre de gagner en force. Mais ce qui donne de la force à l'une, ou en enlève à l'autre, est très subtil, car finalement, les deux ennemis se ressemblent extrêmement. Des organisations totalitaires et ultra-technologisées. Voilà comment Rouge est décrite.
Imaginez-la dans la nuit noire, invisible. Imaginez ses pas, un par un, qui jamais ne fatiguent, jamais ne glissent sur le gravier ou la poussière de la caverne. Imaginez la précision avec laquelle sa tête pivote sur son cou épais, décrivant un arc mesuré d'un côté à l'autre. Écoutez, vous pouvez. Écoutez les gyroscopes ronronner dans ses entrailles, les lentilles cliquetées sous la gelée camouflage de ses yeux d'un noir profond. Elle se déplace aussi vite que possible, dans la limite de ses paramètres opérationnels. D'autres lumières rouges, d'autres eaux qui viennent rejoindre leurs semblables dans le sac, elle n'a pas besoin de consulter sa montre. Un chronomètre défile au coin de sa vision.
Dans une de ses lettres, Bleu raconte un peu le fonctionnement biotechnologique de son monde.
Nous sommes un peuple de grands jardiniers. Nos parties sont longues et lentes, tout comme notre maturation. Jardin nous a sommés dans le passé. Ta commandante le sait déjà, qu'elle est jugée bonne de t'en informer ou non. Et nous apprenons et grandissons dans ses fils. Nous traitons le passé comme une treille, en roulant nos vignobles autour de lui, à travers lui, et la récolte n'est pas synonyme de rapidité. Le futur nous récolte, nous foule pour nous transformer en vin, nous reverse dans le système racinaire en une tendre libation, et nous devenons ensemble plus forts et plus puissants. J'ai été des oiseaux et des branches, j'ai été des abeilles et des loups, j'ai été l'éther inondant le vide entre les étoiles, enchevêtrant leur souffle en réseau de chansons. J'ai été poisson, plancton, humus, et ils ont tous été moi.
Ce qui permet de distinguer les deux organisations, c'est l'aspect très mathématique de l'agence et l'aspect très botanique de Jardin. Mais que ce soit par les plantes ou par les mathématiques, les deux ennemis en arrivent à un contrôle extrême des individus et une maîtrise très poussée des technologies. Ces ressemblances rendent la guerre du temps d'autant plus bizarre et absurde. Rouge écrit.
Imagine un instant que tu aies réussi. que tu aies volé l'objet physique sur lequel repose la lente décomposition quantique des générateurs de nombres aléatoires de ce brin, que cela ait provoqué une crise cryptographique conduisant les gens à se méfier de leurs imprimantes à nourriture, que les masses se soient révoltées et que les émeutes, mettant le feu aux poudres, aient provoqué une guerre. Nous aurions dû repartir de zéro, en cannibalisant d'autres brins, très certainement dans ta tresse. Et nos deux cons s'entre-déchireraient de plus belle.
Ce à quoi Bleu lui répond.
Et nos deux cons s'entre-déchireraient de plus belle. Oh mon pétale, tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Il m'arrive de songer au microcosme que nous sommes, toi et moi, au centre de cette guerre, dans sa globalité. Une action, une réaction égale et opposée. Mais qui était le premier de l'œuf ou de l'ornithorynque? Nos fins ne ressemblent pas toujours à nos moyens.
À la lecture, il y a très peu d'indications pour comprendre l'univers et elles sont parsemées tout au long du texte. Ça fabrique un truc très intéressant, car ça active l'imaginaire et on se retrouve à combler les trous nous-mêmes, à se fabriquer nos petites histoires dans nos têtes. Cette manière d'écrire a cette puissance qui pousse à interpréter et à imaginer des explications tout en nourrissant suffisamment la curiosité pour tenir en haleine. Par exemple, avec le personnage mystérieux de la fouilleuse qui apparaît après chaque lecture de lettres. Dans Les oiseaux du temps, Rouge et Bleu, les deux combattantes de camps ennemis, entretiennent une relation épistolaire et doivent redoubler d'imagination pour écrire des lettres qui ne pourront être lues que par elles, sans que leurs supérieurs ne puissent se douter de rien. C'est un des aspects vraiment tripants de l'univers. Bleu et Rouge composent des lettres pendant des dizaines d'années, avec une finesse et un niveau de calcul extraordinaire. Mais c'est leur métier, agir sur l'histoire par petites touches jusqu'à obtenir un résultat d'une infime précision. Leurs lettres s'expriment dans le bruit du vent qui traverse un mobile fait d'os percés, dans les remous colorés de la lave d'un volcan, dans le mouvement des feuilles de thé dans une tasse, dans la succession des nœuds du tissage d'une toile, ou poussent à l'intérieur d'un arbre.
La lettre commence au cœur de l'arbre. Les cernes, de plus en plus fins à cet endroit, forment des symboles dans un alphabet que personne ici ne connaît, à part Rouge. Les mots sont petits, parfois effacés, mais quand même, 10 ans par ligne de texte, et les lignes sont nombreuses. Cartographier les racines, déposer ou drainer les nutriments, année après année. La rédaction du message a dû prendre un siècle. Des légendes locales évoquent peut-être une fée ou une déesse de givre aperçue dans ces bois, l'espace d'un instant, avant de disparaître. Rouge se demande quelle expression elle arborerait en insérant l'aiguille. Elle mémorise le message, strie par strie, ligne par ligne, se livre à un long décompte des années écoulées. Ses yeux changent. Les hommes autour d'elle, qui la connaissent depuis une décennie, ne l'ont jamais vue ainsi. « Faut-il jeter ce rondin ?» demande l'un d'eux. Elle secoue la tête. Il doit être utilisé. Elle ne précise pas que, dans le cas contraire, quelqu'un pourrait le trouver et lire ce qu'elle a lu.
Ces manières de composer les lettres est un investissement pour ne pas se faire découvrir, pour échapper à la répression. Mais c'est aussi un jeu de séduction entre elles, puisqu'elle cherche à s'impressionner, se bluffer, se surprendre. C'est un truc assez romantique, finalement.
Quelle audacieuse intrusion, vraiment bien jouée. Je n'aurais jamais imaginé que ton con se risquerait à intervenir si loin en aval du brin 8827, avant de reconnaître ta signature.
Le roman épistolaire n'est vraiment pas courant dans le genre de la science-fiction. Et avec Les oiseaux du temps, Amal El-Motar et Max Gladstone ont fabriqué une structure quasi rituelle, avec une alternance de chapitres de narration qui mènent à la découverte d'une lettre, puis la lettre en question. Cette structure crée une alternance des voix des narratrices, mais aussi une alternance des personnes à qui les mots sont adressés, les lectrices ou le personnage à qui s'adresse le courrier. Ces lettres, la durée de leur fabrication, les allusions, réponses et renvois qui se succèdent donnent un rythme très agréable au roman, et une dimension très puissante à la relation qui se construit entre Rouge et Bleu.
Vous écoutez toujours Vortex et Rotative sur Campus Grenoble et Radio Dragon.
Aujourd'hui, on vous présente le roman « Les oiseaux du temps » de Amal El-Motar et Max Gladstone. Une secousse agite le sol. Ne l'appelez pas Terre. La planète meurt. Les grillons stridulent. Les grillons survivent, pour l'instant, parmi les vaisseaux écrasés et les corps brisés de cette planète déliquescente. Une mousse argentée dévore le métal. Des fleurs violettes étouffent les fusils silencieux. Si la planète survit assez longtemps, les vignes qui poussent dans les bouches des morts porteront des fruits. Mais ce monde ne survivra pas et elles ne porteront rien.
Parmi les choses qui m'ont plu dans Les oiseaux du temps, il y a aussi le langage et le style. Le texte est très beau, plein d'images et de métaphores parfois surprenantes qui le rendent assez poétique, alors que les auteuristes ne se gênent pas non plus d'avoir recours aussi à des jurons et expressions bien plus familières. Ce mélange de styles est assez réussi, il est impressionnant comment ils arrivent à raconter une guerre brutale faisant plein de morts avec un langage qui confère au récit une élégance, un lyrisme et une finesse incroyables. Si ce texte provoque autant d'émotions, touche à quelque chose d'aussi sensible, c'est évidemment aussi grâce à la traduction française de Julien Béton, qui, même si elle fait parfois des ellipses un peu étranges, transpose merveilleusement cette délicatesse du langage et des sonorités.
Elle tient un cadavre qui a été un homme, les mains gantées par ses entrailles, les doigts serrés sur l'alliage métallique de son épine dorsale. Elle lâche prise et l'exosquelette cliquette contre la pierre. Une technologie grossière, antique, bronze contre uranium appauvri. Il n'avait aucune chance. C'est la finalité de Rouge. Après une mission, plane un silence grandiose, définitif. Ses armes et son armure se replient en ailes comme des roses au crépuscule. Une fois que les pans de sa pseudo-peau ont repris leur place aiguërie, que la matière programmable de ses vêtements s'est retissée, Rouge ressemble, de nouveau, vaguement à une femme. Elle arpente le champ de bataille, cherchant, vérifiant. Elle a gagné. Oui, elle a gagné. Elle est certaine d'avoir gagné, n'est-ce pas ?
En lisant ce roman, on a l'impression qu'Amal El-Motar et Max Gladstone se sont bien lâchés pour jouer avec les mots et les associations. Yael maîtrise cet exercice à merveille et avec de l'humour aussi. Parmi leurs terrains de jeu, il y a notamment deux axes, les couleurs et le temps. Dans leur correspondance de plus en plus empreinte d'émotions, les deux protagonistes semblent mobiliser la totalité des champs lexicaux des deux couleurs primaires que représentent leurs noms. Elles explorent alors les références, images et métaphores pour décliner un grand nombre de versions du bleu et du rouge.
Mon bleu si insidieux.
Ma chair rouge aux crocs ensanglantés.
Phénix aux flammes saphir jaillit des
cendres. Mon rouge parfait. Chair cochenille.
Bleu d'abadi d'abada.
Mon prudent cardinal.
Mon humeur indigo.
Cher ciel rouge
très
le
cher
matin.
Très cher 0000 F.
Ma chère misco wanzi. Ma chair plus précieuse
très
que les rubis.
Très cher bleu si profond.
Mon cher érable.
Très cher lapis.
Cher fraise, cher framboise.
Myrtille.
Sang de mon propre cœur.
Mon cyanotype.
Ma baie d'if, ma cerise sauvage.
Neptune.
Mon songe vermillon.
Piranha écarlate. Merle bleu.
Philpa.
Iris outre-mer.
Ma rouge rose.
Je fais varier ta forme dans mes pensées. C'est fou tout le bleu qu'on peut trouver dans le monde, en cherchant un peu. Tu es différentes couleurs de flammes. Le bismuth brûle bleu, comme le cérium, le géranium et l'arsenic. Tu vois ? Je te verse dans d'autres choses.
Un autre terrain pour leur jeu linguistique est celui du temps. Les deux protagonistes se déplacent dans le temps à une vitesse et à un rythme effréné. Et en même temps, elles déploient leur mission d'espionnage méticuleusement sur des siècles ou investissent des millénaires à fabriquer leurs lettres sophistiquées, au point que le temps en devient complètement élastique. Ce rapport au temps se reflète aussi dans le récit et leur manière d'écrire et confère parfois plusieurs significations aux mots et aux expressions. Là encore, El-Motar et Gladstone font preuve d'une grande virtuosité et ça participe bien à la beauté du texte.
Remonter les fils du temps vers le passé pour s'assurer que personne ne survivrait à cette bataille et ne contrarierait les futurs prévus par son agence. Des futurs dans lesquels l'agence règne, dans lesquels Rouge elle-même est possible. Elle est venue nouer. Faites rouler un caillou et dans 3 siècles, vous obtiendrez une avalanche. Il n'y a rien. Elle grimpe en amont pour trouver réconfort dans le passé. Rouge cherche. D'autres fois, elle se dit que même l'infini doit avoir un début.
Ses jours sont rares.
La rédaction du message a dû prendre un siècle. Des légendes locales.
As-tu déjà observé les mécanismes d'une montre ?
Une vraiment, vraiment bonne montre ? Si tu veux comprendre de quoi je parle, grimpe en aval jusqu'au Ghana au 23e siècle SE.
La société Limited.
Quelqu'un se rendra peut-être compte de leur intérêt, avec quelques siècles d'avance, et changera la donne. Alors,
Rouge essaie de gagner du temps.
Rouge, je t'enverrai des lettres depuis tous les temps.
Des lettres d'un
si l'on en croit les fadaises publiées durant une douzaine de 20e siècle.
L'Atlantide devait avoir un clair.
Je veux t'en faire un bouquet, cueilli sur une durée de 800 ans,
afin que tu puisses embrasser.
Sanglotant, jurant, anéanti, un cheveu déroché, elle s'échappe dans le passé.
En tant que combattante d'élite dans une guerre du temps, les contextes dans lesquels Rouge et Bleu doivent intervenir pour mener à bien leur mission sont souvent des moments importants de l'histoire ou de la mythologie, des endroits clés pour modifier le cours de l'histoire. Ainsi, le récit est plein de références historiques. Mais que ce soit infiltrer l'armée mongole de Genghis Khan ou une équipée partant à la chasse aux phoques au XIXe siècle, ces événements sont toujours délégués au second plan. Car le premier plan est entièrement pris par l'histoire de nos deux protagonistes. Et parfois, quand on est complètement absorbé par la lecture, dans le suspense de savoir si elles seront découvertes, et donc exposées à un danger considérable, on se rend compte avec étonnement qu'on vient d'assister à l'assassinat du plus célèbre empereur romain.
T'es-tu déjà ? Demande Rouge à l'un des autres. Senti suivi ? As-tu déjà pensé que commandante t'espionnait ? Un sénateur tend une pétition à César. Suivi ? Demande l'homme au nez cassé sur sa gauche. Par l'ennemi, parfois ? Par l'agence ? Si commandante voulait nous espionner, il lui suffirait de lire dans nos pensées. César rejette la pétition, mais les sénateurs se regroupent autour de lui. Quelqu'un est sur ma piste, explique Rouge, mais il disparaît dès que je pense pouvoir l'attraper. Un agent ennemi, dit la femme sur sa droite. Ce sont des excursions personnelles, des voyages de recherche, pas des contre-opérations. Comment un agent ennemi pourrait-il savoir où je vais ? Un sénateur sort un couteau, il essaie de poignarder César dans le dos, mais l'empereur saisit sa main. « S'il s'agit de commandante, dit l'homme au nez cassé, pourquoi t'inquiéter ?» Elle grimace. « J'aimerais savoir si ma loyauté est mise à l'épreuve. » L'homme qui s'est fait prendre appelle à l'aide en grec. Des poignards glissent hors des fourreaux sénatoriaux. « Cela irait à l'encontre de l'objectif du test, fait remarquer la femme. « Viens, on va rater le spectacle. » Elle a un large sourire et une longue lame. César crie quelques mots qui se perdent dans le tumulte de ses assassins. Rouge hausse les épaules et les rejoint.
Ces clins d'œil à des grands moments historiques ne sont pas les seuls endroits où les deux autrices font preuve d'humour. Le texte regorge de références littéraires, artistiques et musicales. Il y a par exemple des citations d'œuvres de Percy Shelley, Lord Byron, Charles Dickens, George Orwell et William Shakespeare. À vrai dire, n'étant pas vraiment une grande amatrice de littérature classique anglo-saxonne, j'en aurais remarqué aucune à part éventuellement celle de Roméo et Juliette, s'il n'y avait pas une liste des références à la fin du livre. Il n'est vraiment pas du tout indispensable de les comprendre pour comprendre le roman. Et du coup, je ne le prends pas tant comme une volonté de créer un livre savant avec une intertextualité importante, mais plutôt comme un endroit où Amal El-Motar et Max Gladstone se sont fait plaisir en plaçant ici et là des petites références complices à des œuvres qui les ont marquées. Yael raconte d'ailleurs que pendant une grande partie du travail d'écriture, Yael n'avait pas accès à Internet. Toutes ces références font donc partie de leur culture personnelle. En plus, Yael ont placé plein de références à des paroles de chansons que je me suis amusé à aller chercher. Ça va du tube rock des années 80, « The future's so bright, I've got to wear shades », en passant par le Motown song Ain't No Mountain High Enough, interprété par Marvin Gaye et Tammy Terrell, you don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain le standard de jazz Mood Indigo de Duke Ellington. Le tube pop 0000FF de la jeune chanteuse singapourienne Jasmine Soko. My favorite color's blue, and it's all because of you. Et la chanson folk Mighty Queen de Bob Dylan. Pour la traduction française dans la reprise de Francis Cabrel.
Tout le monde veut son building plus haut que les nuages.
Jusqu'à ce tube de danse bien connu. Dans le texte, ces citations sont toujours introduites par « comme dit le prophète ». Comme si la culture pop, dans son ensemble, allait nous annoncer le futur. À entendre tout ça, on a bien l'impression qu'Amal El-Motar et Max Gladstone se sont pas mal amusés et que ce processus d'écriture à quatre mains s'est fait dans une grande complicité. En 2021, Amal en parle dans une interview.
Ce désir de lutter ensemble, pour et contre, comme nous le disons dans le livre, de vouloir impressionner l'autre tout en repoussant nos limites, nos zones de confort, nos terrains familiers, a fait partie intégrante de notre processus d'écriture. En lisant le livre, vous constaterez peut-être aussi que les points de vue, de rouge et de bleu, et leur style se mélangent un peu, se brouillent, pourrait-on dire, à mesure qu'elles se révèlent l'une à l'autre. Et c'est ce que nous avons vécu en l'écrivant. Au début du processus, Max écrivait environ 4 fois plus vite que moi et devait attendre que je termine mes parties. Au deuxième acte, il a ralenti et j'ai accéléré, jusqu'à ce que nous terminions exactement en même temps. Il y avait vraiment un sentiment de synchronisation, de rapprochement, d'admiration et d'encouragement mutuel.
D'ailleurs, les deux racontent aussi que leur amitié s'est également nouée autour d'un échange épistolaire. C'est une belle histoire, une amitié intense qui débouche sur des créations communes. Mais c'est là que je trouve presque un peu dommage qu'ils aient choisi d'écrire une histoire d'amour passionnel, romantique et absolu. Alors que dans une des premières interviews d'Amal, sur laquelle j'étais tombée, j'avais vachement apprécié qu'elle critique le fait que les amitiés soient aussi peu un sujet à part entière dans la littérature.
Il y a un tel décalage entre mon expérience des choses importantes dans ma vie et la façon dont les choses importantes dans la vie des gens sont représentées dans les histoires, où les amitiés ne semblent pas exister. C'est comme si elles n'étaient que des distractions à l'intrigue ou des notes d'agrément. Elles ne font pas partie intégrante. Elles ne constituent pas des forces narratives. Et je crois fermement qu'une grande partie de ma vie a été définie par mes amitiés. Et tous mes hauts et mes bas, mes collines et mes vallées émotionnelles ont eu à voir avec mes amitiés, avec leur formation, leurs pertes ou leurs complications. Et je trouve déroutant que cela semble éluder des représentations de la vie. Ces relations qui peuvent être un tel pilier de l'existence, vous savez, la joie, la tristesse et tout le reste, ne sont pas présentes dans les histoires.
Voilà, c'était le 13e épisode de Vortex et Rotative.
On vous a présenté Les Oiseaux du Temps de Amal El-Motar et Max Gladstone, paru en 2021 au label MU des éditions Mnemos, dans la traduction française de Julien Bétan.
Parmi d'autres, ce roman court de 192 pages a gagné les prix Nebula, Locus et Hugo dans la catégorie Novella.
Cette émission est montée avec des bouts des 24 Caprices pour violon de Paganini. Au revoir.
Au revoir.
Et à la prochaine.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.